Il fera donc beau et chaud partout, avec une hausse très nette des températures qui pourront atteindre 30 voire 31 degrés sur le sud-ouest. C'est la fin de cette édition. Prochaines informations à 8h et je vous laisse en compagnie de Rust Agassi pour son magazine Terre à Terre.
Un panoramique insatiable, glissant d'envers en endroit. Une aspérité longitudinale, un pont l'évêque miroitant, un arc-en-ciel phénoménal piétinant le soleil couchant.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, un oui de façade. Alors Sylvain Garel, vous êtes élu vert conseiller de Paris et cette merveilleuse unanimité qu'on proclame, vous la faites voler en éclats?
Oui, effectivement, nous sommes quelques élus des Verts à avoir rejeté cette unanimité autour de la question des Jeux Olympiques et de la candidature de Paris pour l'organisation de l'édition 2012. En effet, nous pensons que il n'y a pas à avoir d'unanimité pour un projet qui pose d'énormes problèmes, que ce soit les Jeux Olympiques en tant que tels ou la candidature parisienne spécifiquement.
Alors, on va serrer les problèmes, les Jeux Olympiques en tant que tels.
Les Jeux Olympiques en tant que tels, ce qui nous pose un problème, c'est que l'esprit olympique tant vanté aujourd'hui n'est plus qu'un leurre, puisqu'on s'aperçoit que c'est devenu une immense foire commerciale. Ce sont les sponsors qui sont les rois de la fête, que il n'est plus du tout question de sport, mais uniquement de compétition, qu'il y a de forts relents nationalistes derrière les JO, puisque chaque pays se préoccupe du nombre de médailles que vont ramener ses athlètes, et puis qu'il y a énormément d'argent qui sont derrière ces jeux, et que bien sûr ça pousse beaucoup de sportifs à tricher, à se doper, et nous pensons donc qu'il faut critiquer beaucoup les Jeux Olympiques sur ce qu'ils sont devenus, et nous pensons pas du tout que ça soit quelque chose de ni d'écologiste, ni de social, qu'il faut promouvoir à travers les JO.
Ouh là là, mais vous en dites beaucoup là. Alors attendez, pourquoi pas écologiste? C'est pas l'argent qui n'est pas écologique.
Non, c'est pas l'argent, c'est le fait que le slogan des JO, plus vite, plus fort, plus loin, c'est contradictoire avec l'écologie politique, parce que nous, notre volonté, c'est justement peut-être d'aller moins vite, moins loin, moins fort, mais d'y aller longtemps et d'y aller tous ensemble. Alors que là, c'est toujours quand même ce qui intéresse, c'est le premier qui est arrivé. Et puis c'est toujours dépasser les autres, être plus fort que les autres, courir plus vite par n'importe quel moyen. Et nous ne pensons pas que ça soit la bonne façon d'éduquer, y compris les gens au sport. Nous sommes favorables à la pratique sportive. Nous pensons que c'est bien que les gens fassent du sport tous les jours. Mais la compétition, c'est autre chose que le sport.
Et puis vous dites « pas à Paris ».
Alors on dit « pas à Paris » parce que nous pensons que Paris n'est vraiment pas la ville de France, ni celle d'Europe, et encore moins celle du monde, qui a le plus besoin d'infrastructures sportives ou de transports nouvelles. Nous, par exemple, nous avons développé l'idée que si le CIO voulait faire preuve d'intelligence et d'humanité, il ferait mieux d'utiliser l'argent des sponsors, l'argent des retransmissions télévisées, pour pouvoir organiser les JO dans une ville du tiers-monde, pourquoi pas à Dakar, pourquoi pas à Bénarès, où là, effectivement, avoir des infrastructures sportives serait vraiment indispensable dans des villes où il n'y en a pas. Construire des transports en commun serait vraiment très très important. Alors qu'à Paris, bon, bien sûr, on peut toujours avoir plus de ça, stades, plus de piscines, plus de tramways, mais on n'est pas du tout une ville en retard quand même au niveau planétaire et encore moins au niveau français.
Donc vous estimez qu'on est déjà suffisamment pourvu et qu'on n'a pas besoin d'être gâté davantage?
Oui, et puis en plus, la France est un pays ultra centralisé, sans doute le pays d'Europe le plus centralisé, et une fois encore, on va renforcer la centralisation en organisant donc les JO, en voulant organiser les JO à Paris, et en voulant donc qu'il y ait encore davantage de financement, d'investissement dans la région capitale ou la proche banlieue, mais ce qui revient pratiquement au même. Et alors que ça aurait été bien plus intéressant, même si on avait voulu le faire en France, de le faire dans une ville moins favorisée que Paris.
Mais ceci dit, Sylvain Garel, vous dites on a un certain nombre de Verts à s'être opposés à ce projet, et pourtant le groupe des Verts s'est rallié à ce projet, et en particulier autour d'une idée qui semble très séduisante, ce serait de faire de ces Jeux Olympiques une vitrine des savoir-faire français en matière écologique, et en particulier la haute qualité environnementale qui présidera à la construction de tous les bâtiments.
Alors d'abord deux choses. D'abord c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, le Parti Vert, les Verts d'Île-de-France ont pris position contre les Jeux Olympiques. Donc les Verts en tant que parti sont contre. C'est les élus au Conseil de Paris où il y a eu une petite majorité dans un premier temps qui était favorable aux Jeux. Il semble que cette majorité se soit bien largement effritée lorsque les gens ont compris ce qu'il y avait derrière les Jeux et quand on a vu aussi toute cette propagande se mettre en place et que beaucoup de gens commencent à en avoir assez de cette propagande et du fait qu'on ne parle plus que des Jeux Olympiques dans la mairie de Paris. Soit de la haute qualité environnementale, c'est vrai que sur le papier, le projet de la ville est très séduisant. On veut en faire, avec le maire, s'il voulait essayer de construire cette unanimité qui n'a jamais vraiment existé, il fallait qu'il donne des gages. Donc, il y a plein de mots sur l'aspect écologique de ces Jeux Olympiques, même si on a vu que pour nous, c'est très antinomique. Mais moi, j'y crois très peu, parce que lorsqu'on va construire pour les Jeux Olympiques, il y aura des délais qui sont des délais totalement impératifs. Là, on n'est pas dans des constructions normales, entre guillemets. Il faut absolument que tout soit terminé un an avant. Donc on aura très peu de temps et j'ai très très peur que sur beaucoup de projets, on nous dise, bon écoutez, la haute qualité environnementale, c'est bien, mais vous comprenez, on n'a pas vraiment le temps ni forcément les moyens de faire ça en si peu de temps et que ça va passer à l'as. Et on sait déjà par exemple qu'il est...
Vous dites j'ai très peur, pardon, je vous interromps, parce que vous dites, est-ce que c'est simplement que vous êtes un anxieux de nature ou bien...
Non, je suis pas un anxieux de nature, mais je suis quelqu'un qui est... qui a une petite expérience de ce type se passe lorsqu'il y a des travaux dans la ville de Paris, et je sais bien quand il y aura des délais impératifs, on nous dira il faut aller plus vite. D'autant plus que c'est pas la ville qui va piloter seule les travaux, l'État aura un poids considérable, et qu'on sait très bien qu'actuellement, si les Verts ont un poids sur la mairie de Paris, sur la région Île-de-France, mais sur l'État on n'en a aucun. Je veux dire, on n'a aucun moyen de contraindre l'État à respecter quoi que ce soit en matière environnementale.
Pourtant, un beau Roland-Garros bis à la place du Bois de Boulogne, ça pourrait être tellement charmant.
Alors ça, c'est un projet sur lequel là tous les Verts sont opposés. Parce que ça, c'est effectivement un des points noirs. Alors dans le projet, quelle que soit notre appréciation, on peut avoir des JO, c'est qu'il est prévu actuellement qu'il y ait une construction pérenne, et c'est ça qu'on reproche, dans le Bois de Boulogne, qui servirait... ensuite à agrandir Roland-Garros. Alors que ça, c'est contradictoire avec nos engagements lors des dernières élections municipales de 2001, où nous étions engagés à ne pas toucher au bois et au contraire à essayer de les améliorer, les agrandir, et non pas de les ratiboiser, si je m'exprimer comme ça. Et donc là, il y a vraiment un vrai problème. Et là-dessus, nous allons mener une bataille très très féroce pour que, quoi qu'il arrive, sur les JO, il n'y ait pas de destruction d'une partie du Bois de Boulogne.
Toutes ces choses que vous êtes en train de me confier, Sylvain Garel, est-ce que ce sont des discussions qui ont cours dans les couloirs de la mairie de Paris ? Quelle est l'ambiance ? Parce que au-delà de cette unanimité affichée, et vous parliez tout à l'heure de propagande, j'imagine que tout de même la situation est plus complexe.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un débat là-dessus. Pour preuve, le mois dernier, lors du dernier Conseil de Paris, donc début du mois de mars même, donc on était le jour où arrivait le CIO à Paris, nous étions en Conseil de Paris. Et il y avait une délibération qui devait rajouter 1 million d'euros aux 24 millions d'euros que nous avions déjà voté il y a quelques mois pour la candidature. C'est juste ça, pour être candidat. Et là-dessus, le groupe Vert avait décidé de s'abstenir. Parce que justement, je pense que les gens pensaient que ça suffisait. C'était 1 million d'euros pour organiser le 5 juin une grande fête des Jeux Olympiques à Paris. Et lorsqu'ils ont vu que je m'étais inscrit pour intervenir et que le groupe Vert allait s'abstenir sur la délibération, elle a été retirée et elle sera représentée le mois prochain. Donc vous voyez que le débat n'est pas très facile, c'est-à-dire qu'on préfère retirer une délibération, la repousser d'un mois, alors que pour pas qu'il y ait un débat à un moment crucial de la candidature parisienne.
La repousser, mais la représenter, c'est-à-dire qu'il est toujours, cette fameuse fête à 1 million est maintenue.
Ah bah cette fête à 1 million, elle sera votée parce que les Verts s'abstiennent, même si nous votons contre, la gauche et la droite voteront pour, donc nous serons mis en minorité sans aucun doute, parce que là-dessus il y a un vrai front commun entre PC, PS, UDF et UMP, là-dessus ils sont tout à fait d'accord.
Donc on n'est pas loin de l'unanimité.
Nous ne sommes pas loin de l'unanimité, nous sommes un petit peu les vilains petits canards, mais nous pensons que c'est important que les gens qui sont opposés au JO puissent se faire entendre au sein du Conseil de Paris. Et pour preuve, depuis que nous avons quelques élus et d'autres personnes pris position contre, nous recevons des dizaines de messages de sympathie de gens qui disent « Ah, enfin, il y a des gens qui disent ce que je pense, il y a enfin des gens qui s'opposent à cette bêtise, il y a cette diabgie, etc. » Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas seuls.
Et dans les couloirs, je vous demandais, parce que là, vous m'avez parlé de ce qui se passe en haut lieu, mais dans les couloirs.
Dans les couloirs, y compris, il y a des gens qui soutiennent les JO officiellement, qui sont un peu plus modérés dans leur soutien, et qui se disent quand même, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que c'est vraiment à une mairie de gauche et écologiste de consacrer autant d'énergie, autant d'argent à des Jeux Olympiques? Mais bon, une fois que les caméras et les micros se tendent, ces gens-là ne disent plus la même chose. Ils ont le discours officiel de la mairie.
Vous ne portez pas le pins?
Non, je ne porte pas le pins, effectivement, contrairement... Ça, déjà, et d'ailleurs, pratiquement aucun élu vert ne le porte. Mais contrairement à beaucoup d'élus, et surtout à beaucoup de fonctionnaires de la ville, qui se retrouvent quasiment obligés par leur hiérarchie, même s'il n'y a pas de texte, mais il y a une espèce de pression qui se fait, que pour se faire bien voir, il faut avoir le pins JO 2012. Et c'est vrai qu'à la mairie de Paris, on ne peut plus ouvrir une porte de placard, pratiquement, sans qu'on tombe sur un logo, sur un slogan en faveur des JO. Ça en devient insupportable.
À la cantine,
j'y vais pas, moi. Alors, je sais pas, franchement, c'est là que je fréquente pas en plus, c'est pas la même cantine pour les élus et pour le personnel, et je fréquente ni l'une ni l'autre. Je peux pas vraiment pas vous dire, mais par contre, dans toutes les salles de réception, qui sont des salles classées, on a collé sur les cheminées, on a collé l'amour des jeux, Paris 2012, etc., etc., des slogans en plus un peu bêta, avec des logos pas vraiment très beaux. Et bon, ça trône là depuis quelques semaines, quelques mois, et en tout cas, vivement le 6 juillet, et j'espère que comme on n'aura pas les JO, que tout ça va être décroché et mis à la poubelle. D'ailleurs, je me promenais l'autre fois avec un peu par provocation, mais j'aime bien un peu provoquer de temps en temps, avec le logo des JO 2008, de la candidature de Paris pour les JO 2008. Et c'est vrai que les gens disaient, ah, c'est marrant, t'as un logo différent des autres. Je dis, oui, mais t'as pas vu, c'est pas la même année. Et effectivement, ce logo-là, on le voit plus. Je sais pas pourquoi. Alors que je disais, c'était ça le vrai challenge pour la mairie de Paris, c'est de récupérer les JO de Pékin. Parce que ça, ce serait une vraie difficulté. Mais 2012, c'est trop simple.
Et voilà, un coup de gueule bien senti. Et alors, mauvaise nouvelle pour les innombrables amis du sport. Ce matin, autour de la table de Terre à Terre, il n'y a guère que des troubles faits, je le crains. Alors, vous allez être étonnés que j'en ai trouvé autant, puisque la presse ayant affiché pratiquement la même unanimité, on n'a pas vraiment entendu parler d'opposition au JO à Paris 2012. La presse quasiment unanime, sauf... grande exception, Bernard Maris, l'oncle Bernard, qui dans Charlie Hebdo, entre autres, mais également dans d'autres colonnes, a pu s'exprimer et exprimer une certaine ire, je dirais.
Oui, une révolte, oui, plus que ça. Oui, c'est insupportable.
Et puis, il n'y a pas que la presse papier, finalement, il y a également les sites internet, et il y en a un très joli qui s'est ouvert récemment, qui a pour logo les anneaux, les fameux anneaux des Jeux Olympiques, mais encadrés de deux N, et ça fait non. Il s'appelle Paris JO 2012, c'est ça, David Sterboul?
Bonjour, alors l'adresse c'est www.paris-2012.fr.st.
Voilà, donc on parle pas de JO dans le site anti-JO. Et puis les anti-pubs s'y sont mis à leur manière également, n'est-ce pas Thomas Guéret, résistance à l'agression publicitaire?
Oui, en fait, on a un tel matraquage autour de cette candidature des JO, et les JO de toute façon sont une telle foire commerciale et de bourrée de publicité que on ne pouvait pas ne pas réagir.
Et puis on a ici un spécialiste, vraiment, le sociologue du sport qui critique le sport, Jean-Marie Brôme. Ça fait des années que vous proclamez, urbi et orbi, que le sport, c'est pas du tout ce qu'on croit.
Le sport est un opium du peuple, et comme tel doit être critiqué, voilà.
C'est... Bon. Donc vous allez nous faire cet exercice, comme vous l'avez fait brillamment à d'autres époques, sur le football ou sur...
En 78 contre l'Argentine et en 1980 contre les Jeux Olympiques à Moscou. Voilà,
c'est... Eh bien, vous allez le faire contre les JO 2012, et peut-être.
Oui, 2012 contre Pékin, oui, en effet. C'est un grand pays.
Mais je voudrais peut-être qu'on commence par ce qui est le plus apparent, c'est-à-dire ce déferlement publicitaire qui a envahi la ville et qui, je dois l'avouer, est à l'origine de cette émission de ce matin, puisque outre les innombrables accessoires qui ont déjà été évoqués par Sylvain Garel, il faut ajouter la mise aux couleurs réglementaires de l'Hôtel de Ville de Paris, de l'Assemblée nationale et peut-être même encore plus grave, me semble-t-il, sur un plan symbolique, de la Seine transformée en dépliant publicitaire qui s'illumine chaque soir aux couleurs des Jeux Olympiques, si bien qu'on ne peut plus profiter d'une des dernières promenades agréables dans cette ville, puisqu'on est immédiatement confronté à de la publicité. Thomas Guéret.
Oui, alors là, on a un déploiement de milliers de dispositifs publicitaires, dont la plupart sont illégaux d'ailleurs. Vous avez des bannières qui sont attachées sur les grands boulevards aux réverbères.
Pourquoi dites-vous qu'ils sont illégaux ?
Eh bien, parce que dans le code de l'environnement, il est dit texto, c'est dans les tout premiers articles de la loi de 79 sur la publicité extérieure, il est dit texto que la publicité est interdite sur les arbres, sur les lampadaires. Et donc là, on a des milliers de grandes oriflammes avec l'amour des jeux. Puis en fait, il y en a une sur deux où c'est l'amour des jeux, puis l'autre sur deux, c'est quand même les logos des entreprises qui soutiennent la candidature de Paris 2012. Et donc on retrouve comme ça, de manière complètement illégale, les logos d'entreprises comme les hôtels Accor, comme EDF, comme Renault, etc.
On va peut-être pas tous les citer, etc. Puisqu'on va essayer de frayer un chemin entre...
Et puis quand même, à noter, il y a un marchand de canons qui est là, qui est même d'ailleurs la tête de file du comité de soutien des Jeux Olympiques. Donc c'est intéressant de voir que quelqu'un qui vend des armes se fait le héros des soi-disant valeurs de l'olympisme et de l'amitié entre les peuples.
Bernard Maris.
Moi, je suis très choqué par l'utilisation de l'Assemblée nationale comme support publicitaire des Jeux Olympiques de Paris, parce que l'Assemblée nationale, c'est la France. Donc que Paris, par l'intermédiaire de son maire, veuille les Jeux Olympiques, ça le regarde. Mais l'Assemblée nationale, c'est la République, c'est la France. Elle n'a pas à prendre position de façon honteuse sur les Jeux Olympiques. De même, les voitures de police, les voitures de la police nationale qui se promènent avec le logo des Jeux Olympiques, je trouve ça indécent. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce que c'est que cette police qui se transforme en support publicitaire, en homme sandwich? Donc là, de ce côté-là, je crois qu'il faut hurler, comme vous le faites, à l'agression publicitaire.
David Sterboul.
Ouais, je voudrais en remettre une couche sur l'Assemblée nationale. Moi, ce qui me semble très choquant, c'est que finalement, les JO, c'est essentiellement les sponsors qui sont derrière. Quitte à mettre une énorme enseigne sur l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas mettre directement les logos des sponsors à côté ou sur les colonnes de l'Assemblée et dire carrément que ça y est, la finance a gagné et que le Parlement peut aller se rhabiller.
Vous allez un peu vite, on peut faire tout ça par étapes. Jean-Marie Brôme.
Oui, je pense qu'il faut comprendre cette espèce de matraquage publicitaire unanimiste dans le cadre de l'Union sacrée sportive. De tout temps, le sport a été supposé être au-dessus des classes, au-dessus des partis politiques, et nous avons vu récemment une grande publicité dans le monde où les grands partis parlementaires, l'UDF, l'UMP, le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont voté ensemble la même motion défendant les Jeux à Paris. Donc voilà, c'est effectivement une crétinisation générale de la population, plus de politique, plus de débat, plus d'opposition. C'est exactement la même chose pour l'Europe, d'ailleurs. On veut nous faire croire que l'ensemble de la population française est pour les Jeux. C'est faux.
Mais vous dites de tout temps. Le sport,
c'est une fonction idéologique du sport de dire effectivement il n'y a plus de politique, il n'y a plus que des sportifs qui transpirent ensemble.
Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une montée en puissance?
Oui, pour des raisons médiatiques, pour des raisons proprement idéologiques. Naguère, vous aviez une opposition entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, cette opposition a disparu. Donc ce sont des entreprises capitalistes qui évidemment se battent pour les parts de marché. Et dans l'unanimité totale, puisque le Parti Socialiste et même d'une certaine manière le Parti Communiste sont ralliés au libéralisme. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est le triomphe absolu du libéralisme, de l'esprit de compétition, la compétitivité, la productivité, etc., etc. Et donc, tous ensemble, on transpire.
Alors, on va certainement revenir sur tous ces thèmes que vous évoquez, mais si on reste d'abord sur ce projet des Jeux Olympiques à Paris, je dois dire que quand on va sur le site officiel, il y a de quoi être bluffé. On nous annonce des choses quand même assez exceptionnelles, et en particulier, je dois dire qu'une émission comme Terre à Terre est très sensible à, au thème environnemental qui est le thème de fond des préparatifs de ces Jeux. On nous promet des choses extraordinaires. On nous promet les déchets zéro, on nous promet de la haute qualité environnementale, on nous promet des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie, on nous promet des transports propres. C'est quand même formidable tout ça. Et 40 000 emplois, on va y revenir aussi. Mais déjà, la question environnementale, qui est tout de même celle qui nous tient à cœur, ici. Vous êtes tous d'accord? Vous pensez tous que ça va être aussi formidable que ce qui est annoncé, David Sterboul? Vous qui êtes de Chiche, j'ai oublié de le préciser. Chiche, c'est le groupe des jeunes verts à Paris, Chiche Paname.
Alors, je vais vous rectifier. Ce n'est plus depuis quelques années le groupe des jeunes verts. Chiche, c'est un mouvement de jeunesse de l'écologie politique qui est
un... Vous n'êtes plus au vert?
Ah non, ah,
ça, vous avez oublié de me l'écrire.
Donc c'est un mouvement indépendant de d'écologie politique, de jeunesse, et aussi bien financièrement que politiquement, nous n'avons plus rien à voir avec les Verts suite au malheureux la malheureuse participation des Verts au gouvernement Jospin. Voilà, il y a eu une scission.
C'est vrai, vous avez encore le droit d'être chez les jeunes Verts?
Si je voulais à titre individuel, je pourrais être chez les jeunes Verts, mais la question ne se pose pas.
Donc, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Alors.
Donc, concernant le bilan écologique, alors on nous promet notamment un bilan zéro en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
C'est formidable, non?
C'est formidable, mais j'ai l'impression qu'on joue un petit peu sur les mots, parce que j'aimerais que l'on m'explique comment il est possible de ne produire aucun effet de serre quand vous faites, par exemple, venir des centaines de milliers de touristes supporters en avion des quatre coins du monde vers la France pour assister à ces Jeux.
Alors, une partie de la réponse est dans le site, c'est qu'on va demander un effort supplémentaire aux Franciliens.
Voilà, alors c'est très intéressant. Il y a pas beaucoup de développement sur ce point-là, mais effectivement, dans le dossier parti environnement de la candidature, on dit que les éventuelles pollutions provoquées par l'organisation de ces Jeux seront compensées par un effort auquel tous les Franciliens sont invités à participer, mais sans préciser vraiment de quelle manière. Et je serais curieux de savoir comment on va convaincre 11 millions de personnes de réduire leurs émissions de manière substantielle.
Bernard Marichaux, vous voulez intervenir?
C'est ce côté escroquerie, moi, qui me choque dans ces jeux-là. Bon, il y a une escroquerie économique, une escroquerie écologique.
Attendez, évidemment. Là, il faut que vous vous expliquiez, parce que le terme est fort. Quand même.
Mais oui, parce qu'on vous dit, bon, écoutez, si on va couvrir le périph, on va couvrir une partie du périph, ce que tout le monde réclame depuis fort longtemps, hein, effectivement, de couvrir le périph. Et si vous n'avez pas les jeux, eh bien, on couvrira pas le périph. En gros, c'est à la fois du chantage. Acceptez les jeux, vous aurez un petit plus. Et c'est une escroquerie, parce qu'on va couvrir le périph' à quel prix? Au prix d'une destruction d'une partie du bois de Boulogne, au prix d'une destruction d'une partie du Racing, tant pis pour les gens qui sont au Racing, ça c'est peut-être pas très grave.
C'est-à-dire que vous choisissez de voir les choses en sens inverse de celui où elles sont présentées dans le site, puisque dans le site on dit, oui, c'est vrai, on va détruire une partie du bois de Boulogne, mais nous allons couvrir le périph'.
Bon, et on va créer un certain nombre du côté de Saint-Denis, de zones vertes, etc., etc. Donc, il y a l'aspect chantage et il y a l'aspect escroquerie. C'est vrai que le fait de faire venir des milliers de sportifs à coups de kérosène sur Paris, ça va être vraiment une pollution comme on n'en a jamais vu. Tous ces spectateurs qui vont affluer sur Paris, je suis désolé, ça va être aussi une pollution à la fois touristique, une pollution écologique et une pollution idéologique qui est absolument insupportable. Donc, de ce côté-là, on va encore une fois nous dire, faire ce chantage, si vous n'avez pas les jeux, il n'y aura pas de progrès vers l'écologie. C'est ça que je ne supporte pas, moi. Il me semble que si on veut faire des progrès dans l'amélioration de notre environnement écologique, il faut le faire en dehors de cette espèce d'idéologie des jeux. C'est comme si on vous disait, bon, écoutez, faisons une bonne guerre et je vous promets qu'il y aura des progrès en matière de santé. Non, mais ça va pas, ça. Bon, il y a des progrès en matière de santé sans faire la guerre. Là, c'est pareil, on peut faire des progrès écologiques sans qu'il y ait une compétition entre les humains.
Surtout que ce qui est très frappant, quand même, c'est à quel point, finalement, le projet écologique peut être clair. Il est extraordinairement bien déterminé et défini dans le projet, dans ce fameux projet. Thomas Guéret.
Oui, de toute façon, il faut bien voir que dans une entreprise comme celle-là, parce que c'est une entreprise, la candidature de Paris, c'est presque une entreprise commerciale, même on pourrait dire. Mais c'est déjà une entreprise. C'est une entreprise commerciale. C'est aussi une entreprise humaine. Hein. Moi, je veux pas lui retirer tout, mais il faut voir quand même que on a déployé des moyens incroyables pour rendre cette entreprise, faire croire que cette entreprise est acceptée par tout le monde. Et finalement, on va également utiliser ces soi-disant arguments humanistes, le progrès, enfin tous les marronniers qu'on nous sort tous les quatre matins vont être utilisés, j'irai même plus loin que vous, non seulement pour faire passer les Jeux Olympiques, mais en plus on va se retrouver avec un tas de nouvelles pratiques, notamment côté publicitaire, qui vont nous être imposées progressivement.
Par exemple,
aujourd'hui, on a parlé des monuments historiques de Paris, ou symboliques comme l'Assemblée nationale, les ponts, etc., qui sont complètement envahis par la publicité. C'est une première. Il faut voir que c'est encore une nouvelle conquête du système publicitaire. Ils ont réussi à mettre de la pub sur la façade de l'Assemblée nationale et sur l'hôtel de ville.
On peut vous rétorquer que c'est exceptionnel et que ça ne se reproduira pas.
Mais bien sûr, mais c'est toujours exceptionnel la première fois avec la publicité. De même que la publicité à la télévision devait être réduite à 3 minutes par jour. C'était promis, juré par le ministre de l'époque, dans les années 60, 68, je crois que ça s'est passé, et puis on nous aura tout vendu par la suite. Aujourd'hui, on parle de deuxième coupure publicitaire dans les films, et la télévision est devenue une espèce de poubelle publicitaire abominable où on vend du temps de cerveau disponible, etc. Et là, c'est la même chose. On va nous refaire le coup de l'emballage des autobus avec des films de plastique publicitaire, avec les Jeux Olympiques, comme on nous l'avait fait pour la Coupe du Monde de football en 98. On va nous mettre de la publicité sur les sols, de la publicité partout. Donc c'est encore une manière, sous prétexte de situation exceptionnelle, sous prétexte d'unanimisme, on va nous faire tout avaler.
Et justement, si on s'en tient à ce chapitre des promesses, est-ce que les uns ou les autres, vous auriez des souvenirs des promesses qui avaient été faites pour des JO précédents ?
Là, il y a des exemples à foison de promesses qui ont été faites. Oui, les Canadiens, par exemple, sont encore en train de payer aujourd'hui
pour
les Jeux de Montréal. Où c'est des Français, d'ailleurs, qui leur avaient construit un magnifique éléphant blanc, une espèce de stade immense qu'ils ont jamais utilisé, qui n'a jamais été couvert, d'ailleurs, qui n'a jamais été fini. Et puis, ils l'ont donné à une équipe de baseball pendant un an. Puis finalement, ils sont encore en train de payer aujourd'hui pour les Jeux de Montréal. Et il faut savoir que ça, c'est une escroquerie terrible. C'est qu'il y a toujours, c'est des gens du bâtiment qui vont profiter évidemment énormément des Jeux. Et toujours, il y a un surcoût dans les travaux. On n'a jamais vu encore dans l'histoire de l'humanité depuis Cro-Magnon quelqu'un qui fasse du bâtiment et qui ne double pas les prix des travaux à l'arrivée. Alors quand Monsieur Delannoy nous dit « Oh, ça vous coûte un petit peu plus cher, mais pas beaucoup », il faut que les Parisiens sachent qu'ils vont payer pendant une génération, comme les Québécois, le surcoût des Jeux. Parce que les bâtiments ont une technique qui s'appelle « faire suer le contrat ». Ça s'appelle faire suer le contrat. Ils arrivent et disent, voilà, ça va vous coûter 100, vous inquiétez pas. Puis au milieu de la réalisation du travaux, ils disent, ah, écoutez, il faut aller plus vite, il y a un petit surcoût, ça va vous coûter finalement 200. Alors ça se passe toujours comme ça, et donc c'est une escroquerie économique, ces jeux.
Là, vous parlez du surcoût économique, et on va aussi effectivement enchaîner tout à l'heure sur cette question économique qui est importante, mais si on reste sur ma marotte, les coûts environnementaux. Il me semble que là aussi, il y a des exemples assez...
Je vais vous donner un exemple que nous aurons dimanche prochain. Le marathon de Paris. Et vous avez le demi-marathon de Paris. Quand moi, je vois le marathon de Paris, j'habite dans le bois de Vincennes. Quand on voit des centaines de coureurs qui pissent ouvertement, bon, des milliers, des dizaines de milliers, effectivement, de canettes d'Evian, etc., qui sont déversées ici ou là, sans compter les papiers gras, sans compter tout le reste, les dépliants publicitaires, vous avez des marées humaines, effectivement, des troupeaux galopants, une pression humaine qui fait qu'effectivement, là, il y a une pollution. Je dirais que le sport est une peste émotionnelle. On l'a vu ça à propos du football. Le tourisme de masse planétaire est une peste émotionnelle et, effectivement, une pollution. Vous avez des troupeaux de touristes, quelle que soit la nationalité, ils se comportent effectivement en prédateurs. Voilà. Et Paris sera envahi par des troupeaux de supporters.
Alors, il y a les touristes, il y a aussi les équipements. David Sterboul.
Oui, il y a un élément qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est la tête des sponsors. Si on s'attarde un petit peu sur les entreprises majeures du club entreprise, on s'aperçoit qu'on a là réuni tous les pires pollueurs qui existent en France. Je vais pas vous faire le détail, mais vous avez un avionneur, vous avez un fabricant de voitures, vous avez une compagnie d'électricité qui tourne à 80% au nucléaire, etc., etc. Je pourrais faire des développements très longs là-dessus, mais c'est pas la peine. Et qu'on ne vienne pas me faire croire que toutes ces entreprises du jour au lendemain vont se mettre à faire de l'écologie, parce que ce n'est pas vrai. Il y a un concept à l'heure actuelle qui s'appelle le développement durable, qui est l'alibi parfait pour ces entreprises pour nous faire croire que elles vont tout repeindre en vert, mais la réalité, elle est tout autre. Le contrat, par exemple, pour le bois de Boulogne, il va être attribué à Bouygues, très certainement, un stade de 15 000 places en dur, avec
à la place des arbres.
À la place de 2,2 hectares d'arbres qui vont être balayés, quoi. C'est ça la réalité.
Et si on reste sur les promesses du passé, j'ai pu voir sur un des sites qui était en lien avec le vôtre, l'exemple de Nagano au Japon, qui est tout à fait intéressant, puisque là aussi, les Japonais étant très sensibles à la qualité de leur paysage, on leur avait garanti qu'il n'y aurait aucun dégât sur les paysages. Moyennant quoi, les photos sont assez parlantes, on a construit des pistes de bobsleigh là où il y avait des forêts, on a canalisé en béton des petites rivières qui tournicotaient radieusement dans un paysage de rêve, etc., etc., sans compter, bon alors eux c'était des jeux d'hiver me direz-vous, sans compter les millions de tonnes d'ammoniac et de glycol qui ont été utilisés pour faire la neige artificielle des pistes de bobsleigh.
À Pékin, on a rasé des cartes historiques. À Pékin, pour les Jeux de 2008. Autrement dit, chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques dans une grande capitale, il y a des opérations immobilières gravissimes, etc. On bétonne, on rationalise. Bon, c'est une destruction de l'environnement, c'est clair. La stadification du monde, l'équipement sportif. Je prends un autre exemple pour Paris. On va construire un vélodrome. Ça concerne 60 individus. Donc on va bétonner effectivement, de manière très très chère, quelque chose pour quelques sportifs professionnels qui accessoirement sont anabolisés.
Bon, vous lancez déjà le débat sur effectivement
ça un autre. Ça peut servir un vélodrome, hein.
Mais effectivement, ça c'est un des thèmes qu'on va aborder, qui me semble, puisque cette histoire des JO, ça me paraît être au carrefour de toutes les préoccupations environnementales qu'on peut avoir, qui sont en effet des préoccupations sur les paysages, sur la publicité, sur l'économie et sur ce qu'on fait à l'humain. En
sur
effet.
L'idéologie aussi.
Sur l'idéologie.
Les droits de l'homme, accessoirement.
Évidemment. Les droits de l'homme. Oui, rappelez-le, là, ce qui s'est passé.
Oui, je
voudrais
dire
Mexico.
Que Paris, si Paris.
Mexico 1968?
Il y a Berlin 36, quand même.
Oui.
Berlin 36, voilà, mais cette idéologie du corps, mais qu'on retrouve dans le discours officiel. Il faut lire aujourd'hui
l'idéologie, la suprématie de la race, ou la suprématie de ceci, des mâles sur les femelles, des jeunes sur les vieux, etc. C'est une idéologie fasciste, je ne crains pas de le dire.
Non, aujourd'hui on ne parle pas de la race, mais on parle quand même du culte du corps, etc., des dépassements.
On verra des rats Pékin, effectivement, des affrontements ethnico-identitaires entre les Japonais, les Chinois, les Russes, etc., du temps de la coexistence pacifique entre le mode de production capitaliste et le mode de production stalinien. Vous aviez une opposition très très forte, c'était la suprématie d'un mode de vie. Mais le problème, c'est que Paris va hériter des Jeux de Pékin. Autrement dit, la flamme olympique dans un pays comme Pékin, où on fusille les opposants, où vous avez des camps de concentration pour des camps de travail, où la masse de la paysannerie est exploitée, etc., où vous avez une bureaucratie féroce, Paris, capitale des droits de l'homme, paraît-il, va revoir la flamme olympique d'un État totalitaire. Moi, je dis qu'effectivement, c'est pas possible. C'est un argument qui est très fort aussi, qui est pas simplement l'environnement. Paris ne peut pas, ne doit pas accueillir des États bouchers, des républiques bananières, des États policiers. Nous aurons là une espèce de jamboree, de festival, de gens qui vont célébrer la paix, l'amitié entre les peuples, etc. Ils sont tous des États prédateurs.
Mais on vous rétorquera que c'est justement une sorte de dépassement de tous ces conflits et enfin une sorte de réunion des peuples dans un même élan fraternel.
Bon, ça c'est l'idéologie. Écoutez, en 1980, Moscou a organisé les Jeux, venait d'envahir l'Afghanistan. En 1936, l'Allemagne nazie, les Jeux de la Croix Gammée, effectivement, après avoir, persécuté les Juifs, préparé la guerre ouvertement. Donc, les Jeux Olympiques à Mexico en 1968, oui. Les Jeux ne se sont tenus que parce qu'il y a eu 300 ou 400 étudiants qui ont été fusillés. puiser sur la place des trois cultures, les Jeux de Séoul en 1988, vous pouvez prendre, etc.
Quel lien entre le fait de fusiller des étudiants et les...
Non, parce que the show must go on, le président de olympique de l'époque, M. Brundage, acceptait parfaitement, effectivement, que les flics du régime mexicain fassent place nette sur la place des trois cultures, comme les Chinois ont fait la place nette à la place de Tiananmen, accessoirement, c'est-à-dire. Donc, on fusille les opposants pour que les Jeux puissent avoir lieu. La paix olympique ne se tient pas précisant que parce qu'il y a la paix des cimetières.
Alors, heureusement, on n'en est pas là ici, j'imagine. Non. Et pourtant, sur le site officiel, à la rubrique aspect juridique, on trouve une phrase assez inquiétante qui est que l'État s'engage à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir la paix des Jeux.
Ben oui, ça, la paix et la sécurité, ah, ça, il y a une espèce d'hystérie collectif qui s'empare des dirigeants au moment des Jeux, ça devient effectivement leur chose, ils ne supportent pas, ils ne tolèrent pas qu'il y ait la moindre atteinte. Donc il faut s'attendre à ce que la moindre déviation, la moindre critique, la moindre manifestation contre les Jeux, peu avant la tenue des Jeux, si par malheur les Jeux se faisaient à Paris, soit réprimée de la façon la plus féroce. Je dis pas qu'on ira jusqu'à ce qui s'est passé à Mexico, puisqu'on a effectivement fait place nette, on a tué 400 personnes pour que les Jeux puissent se tenir, mais il faut s'attendre à ce que, de ce côté-là, il se soit impitoyable.
On en a déjà eu un exemple, puisque la manifestation unitaire syndicale qui avait lieu le jour de la visite du CIO a failli être annulée. Et on a vu tous les éditorialistes de la presse quotidienne et libérale gloser sur le fait que les syndicats allaient nous faire perdre les Jeux et que le droit de grève c'était scandaleux et que d'ici aux Jeux Olympiques il fallait faire une trêve des manifestations. Enfin,
mais heureusement, un syndicat a trouvé une solution particulièrement élégante puisqu'il a fait imprimer 10 000 t-shirts, casquettes aux couleurs des Jeux Olympiques.
Oui, et puis alors là, justement, c'était assez extraordinaire parce que les syndicats, ne savent plus où se mettre dans cette histoire-là, comment se positionner. Ont tous pris des positions différentes qui étaient assez ubuesques. On a eu la CFDT, la CFTC qui ont dit vite, il faut déplacer cette manifestation, annulons-la. Donc ils ont été les seuls, heureusement. La CGT qui a dit mais nous, on maintient là. Alors ils ont quand même tenu leur position. Ils ont dit on maintient cette journée de grève, mais ils ont fait des déclarations tonitruantes en disant qu'ils étaient pour la candidature des Jeux et que etc. Ils ont distribué des milliers de t-shirts et de casquettes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la réalité du terrain, elle est extrêmement différentes. Et là, on peut mettre une épine dans l'unanimité dont on parle tous les jours. C'est que sur le terrain, il y avait donc le comité contre les Jeux Olympiques avec les différentes associations qui sont regroupées à cette occasion, ont tenu une espèce de stand le long de la manifestation près du pont de la gare d'Austerlitz, le pont d'Austerlitz. Et les gens avaient une attitude extrêmement positive vis-à-vis de la présence de la banderole avec le nom, avec les anneaux olympiques, et la distribution des tracts. Ils venaient vers nous, ils disaient, mais c'est super, enfin, vous avez bien raison, etc. Donc il faut voir que dans la rue, les gens sont très contents, ils veulent du débat, et même ceux qui sont pour les Jeux, ils veulent discuter, ils veulent savoir pourquoi il y a des gens qui sont contre, et ils veulent essayer de les convaincre éventuellement, etc. Et alors, au lieu de faire vivre la démocratie comme ça, on nous assène en permanence des sondages de 87% par-ci, et du matraquage publicitaire par-là, pour nous faire croire, et pour tuer finalement ce débat. Donc là, c'est certainement très grave parce que c'est bien la démocratie qui est remise en cause par ces pratiques.
Alors, on va continuer. Oui, David Serboul, vous vouliez...
Oui, je trouve ça assez inquiétant, effectivement, que les syndicats se placent dans un... Enfin, certains syndicats se placent dans un état de servitude volontaire sans se rendre compte qu'ils se tirent une balle dans le pied en défendant les Jeux Olympiques. Je voulais revenir deux secondes sur la sécurité. Alors que, je crois que c'est Madrid et Londres prévoient un dispositif de 10 à 20 000 hommes... pendant les JO, au cas où ces villes les obtiendraient, à Paris est promis un dispositif policier et militaire de 46 000 agents. Donc là, on se retrouverait dans un contexte de plan Vigipérate, niveau écarlate. Hein. C'est vraiment tout record pulvérisé.
Oui, Bernard.
Oui, j'ajoute que les fameuses créations d'emplois.
Alors,
les
justement,
40
000 je voulais qu'on
emplois
y vienne.
Qu'on va créer. Vous pouvez être sûr qu'à 90%, ce sera des emplois de vigile. Hein, ou de distributeurs de tickets. Ça sera ça, les emplois. Ce sera pas des emplois d'informaticiens. Donc, ce sera
effectivement... Mais ça, c'est une affirmation, qui n'engage que vous. Donc, maintenant, oui. En tant qu'économiste, comment est-ce que vous analysez cette promesse d'emplois et de retombées financières juteuses qui nous sont présentées à longueur de temps.
D'abord, 40 000 emplois, même si ce sont des emplois d'informaticiens top niveau, par rapport à 5 milliards ou 10 milliards d'euros investis, c'est quand même un résultat assez minable, franchement.
Par la collectivité.
Donc c'est vrai, un taux de réussite ou un taux de profit en termes d'emplois qui est vraiment dérisoire. Ensuite, ces emplois, ce sont des emplois, je suis désolé de le dire, plutôt des emplois bas de gamme. C'est vrai que ce sera des distributeurs de tickets, des distributeurs de canettes et des vigiles, ça, il y en aura effectivement beaucoup.
Des stadiers.
Et voilà, et ça.
Ce sont pas des emplois pérennes.
Et ben voilà, ce sont des emplois qui sont très provisoires, qui disparaîtront. Et donc l'argument économique, dire ça va faire vivre une région, ça va faire créer des emplois, etc. C'est l'un des arguments les plus insupportables, outre l'embrigadement et la servitude volontaire, comme le disait tout à l'heure notre ami. Le fait qu'on fasse une argumentation économique du type ça crée des emplois, ça ne crée pas des emplois, ça détruira plutôt des emplois qu'autre chose.
De quelle manière ?
Tous ces milliards qui vont là, hein, si vous vouliez vraiment faire de la création d'emplois, il faudrait les investir dans de la recherche, dans de la recherche écologique, dans effectivement des infrastructures qui n'ont pas besoin d'être des stades qui sont des éléphants blancs et qui ne servent strictement à rien. Donc finalement, c'est du détournement d'argent qui va détruire plutôt de l'emploi pour la France et pour l'Île-de-France, plutôt qu'il va créer des petits emplois précaires, des emplois tout à fait provisoires.
Thomas Guéret ?
Oui, ce qu'il faut voir à propos de l'emploi aussi, c'est que la publicité, de manière massive, est la propriété des grandes entreprises, des entreprises multinationales. Et les sponsors, évidemment, des Jeux Olympiques, ce sont qui ? Ce sont des boissons gazeuses et sucrées, dont je tairai le nom par pudeur, ou d'autres, hein, ou des marchands de canons, on l'a dit, typiquement sont des entreprises qui font
de
la concentration.
Ou
des grandes entreprises de bâtiments qui ont des pratiques d'ailleurs sociales qui sont pas forcément géniales, avec de la main d'œuvre illégale d'ailleurs.
Non seulement ça, mais là on voit qu'une boucle se boucle, puisque les sponsors sont ceux qui finalement vont décrocher des contrats peut-être.
Oui, notamment. Mais enfin, là où je voulais en venir en fait, c'est que c'est vrai du système publicitaire de manière générale, mais c'est en particulier vrai pour les Jeux Olympiques. C'est une machine de guerre pour les transnationales. Et qu'est-ce qu'elles font, les transnationales ? Elles tuent le tissu économique local. Elles remplacent la consommation de bien produit localement avec une richesse, une culture locale, par de l'industrialisation, par de la fusion de grands groupes, des dégraissages d'effectifs, etc. Donc en réalité, c'est une entreprise de destruction de l'emploi.
Jean-Marie Brume ?
Oui, juste un point. L'INSEE a publié un chiffre qui est assez affolant. 200 000 personnes, familles, vivent à Paris avec moins de 670 euros par mois. Voilà une réalité. Donc nous avons d'un côté, il suffit de voir ça en hiver, une misère qui se développe ouvertement, et d'autre part on fait des jeux pharaoniques, effectivement, des pains et des jeux, de l'opium. D'autre part, ouais,
des obèses et des jeux.
Des
hein,
obèses, voilà.
Du muscle, on va quand même créer, on va distribuer des boissons sucrées qui vont augmenter le taux d'obésité en France.
Mais je trouve qu'effectivement là, il y a le partage des richesses, il y a quelque chose d'absolument scandaleux. Enfin, on crée des jeux, etc., alors qu'on sait très bien que la misère se développe en France. Bon. D'autre part, on a eu un exemple, les Jeux Olympiques d'Athènes. Qui a payé la mobilisation de 50 000, parce que quand c'était de l'ordre de 50 000, etc., agents secrets, barbouzes et tout ce que vous voudrez, sans compter l'OTAN, vous aviez la flotte américaine, des hélicoptères, etc. On peut supposer que dans le contexte d'hystérie antiterroriste, qui d'ailleurs pas simplement en disant c'est pas un fantasme, mais effectivement il y a des risques d'attentats terroristes sur les Jeux Olympiques, on l'a vu ça en 1972, hein, lorsque le commando Septembre Noir a flingué des Israéliens, etc. On peut donc penser que Paris sera en état de siège. Et qui va payer ça aussi ? Ne serait la mobilisation policière ? Et sans compter effectivement tous les dérapages possibles. Moi je trouve effectivement, quand M. Delannoy dit qu'effectivement ça va être les jeux de la paix, comme le dit d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Christophe Girard, qui est maire adjoint vert, explique adjoint à la culture, que les valeurs de l'Olympisme sont les valeurs républicaines, ça fait frémir. Les valeurs républicaines effectivement sont les valeurs policières à ce moment-là. L'Olympisme effectivement c'est une mobilisation policière, un matraquage idéologique qui va de pair toujours avec l'encadrement policier. On l'a vu ça pour chaque Jeux Olympiques, y compris dans les pays dits démocratiques. Nous aurons également à Pékin un exemple type, effectivement, de ce que c'est que des Jeux Olympiques totalitaires, comme en 1980 à Moscou, comme en 1936 à Berlin.
Vous n'avez pas cité Séoul ?
Et Séoul en 1988. Non, mais tous les Jeux Olympiques, même à Athènes, effectivement, on a eu une mobilisation de l'OTAN. C'est effectivement, tous les opposants ont été matraqués, disqualifiés. J'espère qu'il n'y aura pas de dérapage à Paris. Mais vu le ton qu'emploie le maire de Paris, qui est un ton très autoritaire, en stigmatisant les opposants, c'est effectivement une disqualification démocratique. On n'a pas demandé aux Parisiens
leur avis. Ce que disait Thomas Guéret tout à l'heure.
Oui, en effet.
Ouais. David Starbou, vous vouliez ajouter quelque chose, et puis après j'aimerais bien qu'on arrive quand même sur ce qui va, j'espère, nous faire respirer un peu, la beauté du sport. Alors, je vous écoute.
Oui, à Athènes, on pourrait aussi dire que tout ce qui n'était pas beau à voir dans Athènes a été déplacé ou même fichu dans des hôpitaux psychiatriques, les mendiants, les SDF, les vendeurs ambulants, etc. Enfin, il paraît qu'ils en ont fait venir aussi pour satisfaire les besoins des touristes. Donc, il y a eu une légalisation partielle de la prostitution, il me semble. Donc, je ne sais pas si...
Bon, je proposais donc qu'on parle de la beauté du sport.
Désolé. Moi, je voulais dire peut-être, alors pour commencer, oui, que je suis marathonien et j'ai fait le marathon de Paris. Il m'est peut-être arrivé une fois de faire pipi sur un arbre le long du parcours.
Voilà.
Effectivement,
voilà.
C'est pas très écologique.
Mais tu l'as enrichi en azote.
Mais juste pour dire que je suis pas contre le sport à tout craint et qu'il y a aussi un certain intérêt à une activité collective, pourquoi pas de masse, enfin de mon point de vue sportive.
Et là, le débat va changer de
ton. Non. En effet, je pense qu'il ne faut pas confondre la compétition sportive institutionnalisée, spectacularisée, sponsorisée, et les pratiques sportives. Effectivement, tout le monde peut courir, tout le monde peut faire de la bicyclette, du tennis, de la natation, etc. Justement, le tour de passe-passe, ça consiste à dire ce que fait la mairie de Paris aujourd'hui. Ça consiste à dire le sport, c'est bon pour la santé. C'est faux. Quand on sait que par exemple le sport de compétition, c'est une infirmerie ambulante. Vous prenez toutes les équipes de compétition, football, handball, volleyball, natation, athlétisme, sont des gens, le sport aujourd'hui blesse, il tue même, d'une certaine manière.
Là, vous parlez du dopage.
Mais parce que les gens sont dopés. La compétition sportive et l'entraînement sportif au marathon est une forme de dopage. Les endorphines sont tellement produites qu'effectivement les gens ne peuvent plus s'arrêter. Et effectivement, la servitude volontaire, elle est là. Les gens sont enchaînés. Ce sont des hamsters qui cavalent.
Oui. Et là, je trouve que mine de rien, on rejoint les thèmes de l'environnement et en tout cas d'une certaine vision qu'on a à la fois de notre environnement et de nos propres corps. C'est-à-dire cette volonté de dépassement toujours repoussé, cette volonté d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, etc., ça conduit à des aberrations physiques, me semble-t-il, oui, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans les aberrations qui conduisent à la fabrication d'OGM, par exemple.
Pardon, vous avez une pub en ce moment, parce qu'on parlait de pub, sur les bus parisiens. Pourquoi courir le marathon en 3:40 lorsqu'on peut courir en 3 minutes ?
3 heures.
En 3 heures, pardon, 3 heures. Voilà. Donc effectivement, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi ne peut pas ne pas mener au dépassement des limites. Et le dépassement des limites, c'est quoi? C'est la mort. C'est la blessure, c'est la mort. Effectivement, tout le sport contemporain, que ce soit la natation, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la voile, l'alpinisme, tous les sports extrêmes, c'est de se dépasser. Et on sait très bien comment ça se termine, le dépassement. C'est en course automobile également.
Mais ce que voilà. Vous dites, d'ailleurs, Jean-Marie Baume, c'est que ça n'est pas que du dopage. Ça va bien au-delà.
C'est la compétition sportive elle-même qui provoque. C'est la compétition sportive, c'est la recherche de la victoire à tout prix.
Mais là, je pensais aux manipulations qui sont effectuées sur les corps des sportifs, en fait.
Ah, évidemment.
Mais on est proche de manipulation génétique.
Génétique,
là, on est vraiment à la limite. Pour l'instant, c'est chimique. Bon, c'est-à-dire que ça provoque des morts. Mais enfin, bon, on voit un petit peu les relations cause à effet. Mais là, on commence à traficoter un petit peu les gènes.
C'était dans les années 80, dans les pays de l'Est, notamment en Allemagne de l'Est, lorsque le mur de Berlin est tombé, et heureusement, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des camps d'entraînement. Hein, scientifiquement préparé, effectivement, où les athlètes étaient manipulés, dopés. Bon, on appelait ça la préparation biologique intensive. Bon. Donc, aujourd'hui, comme les records ne descendront pas, pour sauter 2,45 m, vous voyez, il faut quand même sauter 2,45 m. Pour courir en 9,80 m, etc., ou le marathon, c'est 2h10, etc., on ne reviendra pas en arrière. Donc, effectivement, les gens sont toujours aux limites, au niveau musculaire, au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, et les gens tombent comme des mouches. Et donc, évidemment, le dopage est la conséquence de la compétition.
C'est très grave pour écraser une larme pour toutes ces malheureuses victimes. Mais après tout, bon, tant pis. Mais ce qui est aussi très très grave, c'est cette idéologie de la compétition, qui est effectivement une idéologie de toujours faire plus, d'aller toujours plus loin, de toujours lutter les uns contre les autres, de se déchirer les uns contre les autres. Cette idéologie, il faut se battre. On va regarder des gens qui se battent les uns contre les autres avec une foule complètement hystérique autour qui va.
Si possible, une bonne d'humiliation pour les perdants.
Bien sûr, c'est Cavana qui disait ça, le rire hideux du vainqueur. Bon, ça c'est vrai, moi je trouve ça, effectivement, c'est ce malheur au vaincu.
Gladiator.
Voilà, ce malheur au vaincu qui existe, qui est la compétition économique, qui est notre façon de vivre, qui est une façon de ne pas vivre d'ailleurs. Parce que pour empêcher les gens de vivre, on leur dit dépassez-vous, sortez de votre corps, allez plus loin, oubliez ce que vous êtes en train de faire et essayez de faire toujours plus. Et quand vous faites toujours plus, vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Donc vous passez à côté de la vie. Je trouve que cette idéologie du sport, de haute compétition, c'est exactement l'idéologie d'aujourd'hui où on perd sa vie à la gagner. Hein.
Thomas Guéret, vous qui êtes passé aux aveux, comment est-ce que vous entendez tout ça ?
Non, je maintiens ce que je disais, c'est-à-dire qu'une pratique sportive, ça peut être quelque chose de très intéressant. Moi, personnellement, j'ai rien contre mes endorphines, au moins elles sont produites naturellement. Et puis, c'est vrai que avoir une pratique physique, c'est intéressant. Maintenant, je vous rejoins complètement dans le fait que tout ça est quand même assez artificiel. C'est-à-dire, on a des vies dans lesquelles on n'a plus d'activité physique parce qu'il y a des ascenseurs, parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a tout un tas de techniques, des escaliers mécaniques, etc., qui nous évitent le moindre effort physique. En même temps, on est malade justement de plus avoir cette activité physique, et donc on va trouver on va mettre un emplâtre sur la jambe de bois, c'est-à-dire au lieu de se questionner sur nos modes de vie, eh bien on va plaquer des pratiques sportives parce qu'en plus c'est bien parce que ça fait de la consommation. On va plaquer des pratiques sportives qui viennent un peu pallier le problème, quoi. Donc une fois de plus, il y a une espèce d'aliénation qui est une aliénation de la consommation où on nous indique comment il faut vivre, et comme par hasard c'est toujours une vie dans laquelle il faut consommer plus, il faut se rendre plus dépendant du système, etc. Donc ça je pense qu'on rejoint largement la problématique publicitaire, et on vous vendra tout, c'est-à-dire il y a combien de gens on voit qui prennent leur voiture, voire leur 4x4 pour aller faire du vélo. Alors ils ont besoin d'un 4x4 parce qu'ils mettent leur vélo dedans, et puis ils sortent le vélo du 4x4 et ils vont faire leur tour de piste, ou ils vont au bois de machin, etc. Alors que le vélo, c'est un mode de déplacement avant tout. Et il vaut peut-être mieux à ce titre éviter toute l'instrumentalisation qu'on met autour. On vendrait moins de voitures, mais on serait plus heureux.
David Sterboul, vous que j'ai vu refuser l'ascenseur de Radio France pour monter 7 étages à pied.
C'est une petite performance à côté de ce que fait Thomas. La logique publicitaire maintient dans l'esprit des gens le culte du corps, effectivement. Et là, on rejoint. Si on observe de près certaines images publicitaires, on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas très loin des jeux du stade, hein, dans la manière dont les corps athlétiques, notamment pour les hommes, sont mis en valeur. Enfin, dans de nombreuses publicités. Bon, pour les femmes, effectivement, on a des gabarits bien précis à respecter, sinon on n'est pas dans la norme, ce qui entraîne frustration, complexe, dépression, etc. Pour toutes celles qui sont la majorité, qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et donc, que ce soit par le biais de la publicité ou par le biais du sport...
Il y a des modèles inatteignables.
Il y a des modèles inatteignables qu'on nous impose. Et en même temps, il y a l'idéologie de la compétition entre les individus qui est distillée en permanence dans l'esprit des gens, qui est justifiée en permanence. Et cela sert et renforce la logique ultralibérale de dévoration, si je peux employer les néologistes, de dévastation des uns et des autres et de l'environnement.
Bernard Maris, oui, vous aurez le dernier mot là.
Cette idéologie du record, par exemple, l'idéologie du record, le fait qu'il faille toujours battre un record, aller plus loin, ça c'est la bourse. Aujourd'hui, la bourse a fait plus que ceci. Aujourd'hui, la bourse a fait plus que cela. Cette année, Total a battu son record de bénéfices. Bon, effectivement, cette idéologie du record qui fait qu'on est toujours obligé d'aller au-delà, c'est ce qui nous empêche de vivre.
Inutile de nous téléphoner cette semaine, nous ne sommes pas là. Vous pouvez néanmoins nous écrire pour obtenir les liens et les informations concernant cette émission. À Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Vous pouvez également consulter notre site internet franceculture.com. Vous y retrouverez Terre à Terre à la rubrique émission, et vous pourrez consulter notre revue de presse web hebdomadaire. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Anne Gouzon, Laurence Genepin, prise de son, Marie-Dominique Bougot, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.
radio.
Les voix.
Les hommes.
Les voix.
Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana.
Les hommes.
Les voix.
Mémoire vive.
Memoria viva.
Memoria viva. Tu m'impliques.
La radio.
J'apprends.
Écoutez.
Vous êtes sur France Culture.
Bonjour.